Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est Henriette Walter que vous retrouvez dans cette émission puisqu'elle a mis au point toute une série d'émissions en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Et pour Canal Académie spécialement, elle met au service de la langue française et des langues régionales toutes ses compétences, elle qui est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans cette série de 20 émissions, il y a quelques émissions plus généralistes, quelques émissions plus particulières aux langues. En tout cas, il y a de quoi s'informer, je vous l'assure. Bonjour Henriette Walter.
Bonjour.
Alors, il paraît qu'il y a des langues en danger, mais toutes les langues régionales sont en danger.
Absolument.
Alors, desquelles allez-nous vous parler dans cette émission ?
Vous avez tout à fait raison, elles sont toutes en danger. Mais il y en a qui sont un petit peu plus en danger que d'autres. Ce sont celles qui sont les plus proches de Paris, en fait. Paris qui a été un petit peu comme un aimant, qui a attiré les gens vers la capitale, où se mêle quelque chose d'un petit peu mélangé, justement, avec différents usages, mais surtout avec la présence de cette langue française, la langue du pays, la langue de l'État.
Et la langue imposée.
Imposée.
Mais c'était le cas partout, mais là, parce que comme c'était plus proche, ça marchait mieux
Oui, et surtout, c'est-à-dire que surtout, il y a eu le grignotage dont on parlait dans une précédente émission. C'est-à-dire que, comme c'était proche, l'évolution était proche de l'évolution qu'a eu la langue française, évidemment, on avait du mal à distinguer la langue régionale de la langue de l'État, la langue qu'on apprenait à l'école.
Mais alors, les linguistes, comme vous, sont quand même capables de distinguer encore, dans la région proche de Paris, des vraies langues.
On fait ce qu'on peut.
Voilà. Alors, lesquelles,
On les cherche. Alors, on va commencer par la Champagne. La Champagne, vous savez que la Champagne a eu des limites variables, un petit peu comme les autres provinces, mais a toujours été centrée autour de la Champagne qu'on appelait la Champagne pouilleuse, qui est à la limite entre Champagne et Bourgogne. Qu'est-ce que c'est que cette Champagne pouilleuse ? C'est la plaine de craie qui va de l'Aisne au nord jusqu'à la forêt d'Othe au sud. Et que les cartographes du 19e siècle appelaient d'ailleurs la vraie Champagne. Autrement dit, tout a commencé avec la Champagne pouilleuse. Et aujourd'hui, on ne dit plus pouilleuse. C'est pas gentil de dire pouilleuse. Donc, on dit crayeuse ou tout simplement plaine champenoise.
Alors là, il y a donc une langue attachée à cette partie-là.
Voilà, exactement. Alors, l'ensemble de la Champagne, mais qui s'est un peu démantipulé, nous dirons, au cours des siècles. Mais il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, c'était là que se tenaient les fameuses foires de Champagne. C'était des foires internationales. Les gens venaient de l'ensemble de l'Europe, venaient du nord, du sud, de l'est, avec leur façon de parler, avec leurs produits qu'ils échangeaient, etc. Donc, où est-ce que c'était ça ? C'était à Lagny, à Provins, à Troyes et à Bar-sur-Aube. Si on va à Provins, il faut aller regarder ce qu'il y a dans les sous-sols, où il y a des restes de tous ces entrepôts. Où les gens gardaient les produits d'une saison à l'autre. C'est assez incroyable. Et c'est là qu'il y avait le banc du changeur. Le changeur qui était généralement tenu par des Italiens, des Lombards, comme on les appelait. On les appelait les Lombards, mais c'était des Italiens de toute l'Italie. Et qui, au fond, ont inventé la banque. Et c'était sur un banc. On a le mot banque vient de là. Il y a eu d'ailleurs l'expression banqueroute, qui est né à ce moment-là, puisque c'est bancarotta, c'est-à-dire casser.
Casser le banc.
Ou on casse le banc quand on a fait de mauvaises affaires. Voilà un premier trait. Le deuxième trait, c'est que la Champagne a été aussi le siège d'une grande vie intellectuelle dans la cour de Champagne, qui avait été très influencée par la Languedoc, l'amour courtois, qui a commencé à faire ses ravages, si j'ose dire, ou c'est plutôt son bien, dans la cour de Champagne. Par exemple, Chrétien de Troyes a été le premier écrivain de langue d'Oïle dans cette région. Alors bien sûr, l'influence de Paris a été très importante et évidemment, le dialecte champenois est aujourd'hui difficile à repérer. Même si beaucoup de champenois vous disent oh, « si, on trouve encore ». Oui, on trouve, mais peu. Il recouvre en principe les départements de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne. Avec un nombre, bien sûr, de moins en moins grand de locuteurs, On en trouve des traces dans le français régional, par exemple le mot « l'avaloir » qui est le gosier, et dans l'expression « avoir une bonne avaloir », ça signifie que c'est quelqu'un qui aime bien boire et manger.
Avoir une bonne descente,
avoir une bonne descente, voilà, c'est ça, un bon coup de fourchette, on dira aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les diries, D-I-R-I-E-S, ce sont des racontars ou propos insignifiants. Et la ronde ou la londre est aussi l'ancien nom de l'hirondelle en français. Voilà. Maintenant, passons au bourguignon, qui est aussi une langue qui ne va pas très bien. Les limites du champenois par rapport au bourguignon sont très difficiles à établir, car le bourguignon lui-même a des limites un peu floues. Donc vous voyez, tout ça se mélange un petit peu et c'est difficile de s'y reconnaître.
Mais comme ils ont les bons vins, ils ne sont pas malheureux.
On est content de les connaître quand même un petit peu. Donc voilà, et puis on a le Berry. Le Berry est complètement éclaté au moment de l'établissement des départements, entre le Cher, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre. Donc ça a été un morcellement épouvantable et la langue berrichonne a subi à la fois les usages du Nord, où le français a très vite exercé son emprise, et les influences des usages du Midi.
Mais il nous a donné Georges Sand, donc tout va bien, mais elle n'écrivait pas en langue berrichonne.
Voilà. Mais il y a beaucoup de mots.
Elle mettait des mots, oui.
Il y a des mots chez elle, on en trouve. Hein. Et puis alors, j'aime bien rappeler l'étymologie du mot Berry. Ça vient de Biturigues, la tribu des Bituriges, où Riges, c'est le pluriel de Rix, qui est la même chose que Rex en latin, c'est-à-dire le roi. Autrement dit, c'est le pluriel des rois, c'est les rois. Donc, Biturigues, où il y a le pluriel de Rix, qui est exactement la même chose que Rex en latin, c'est-à-dire le roi, et Bitu, qui est le monde. Donc, Biturigues, c'est les rois du monde.
Eh bien, ils vont être contents, les Berrichons.
Hein, voilà. Et Berry et Bourges, c'est la même chose, simplement avec une accentuation différente. Si c'est accentué à la latine, sur l'avant-dernière syllabe, Biturigues, ça nous donne Berry. Et si c'est accentué à la gauloise, sur l'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernière, Biturigues, on a le ou de Bourges.
Qui domine.
Voilà. Et tout près du Berrichon, il y a une petite langue, disons, qui existe de façon très modeste, le Bourbonnais, qui est difficile à circonscrire, dont on peut dire qu'il recouvre en gros un espace quand même, qui va de Saint-Amand-Montrond à Moulins, à Montluçon et à Vichy.
Et Saint-Pourçain, ne pas oublier le Saint-Pourçain.
Par exemple, alors là, voilà. On est de nouveau, attention, hein, on est dans la gastronomie.
Mais voilà. Il y a encore des mots, pas voilà.
Il y a des
bourbonnais,
mots, il y a des sûr. Mots, il y a la berdassée, qui est de la grande quantité, ou les peilles, les vieux chiffons, hein, les peilles. Alors, les langues d'Oïle de l'Est, maintenant, il y en a encore d'autres, hein, qui se manifestent dans les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges et le Doubs. Et alors là, c'est très, très difficile de distinguer des patois lorrains romans et les patois franc-comtois. Et là, c'est vraiment très, très en danger. Elles sont très en danger. On y distingue quand même la différence entre les voyelles brèves et les voyelles longues, dont on a déjà parlé en disant que c'était une caractéristique des langues de l'Est, d'Oïle de l'Est par rapport aux langues d'Oïle de l'Ouest.
Donc, ils allongent.
Ils allongent certaines voyelles. Et donc, par exemple, on a la peau avec une voyelle
là, c'est long.
Longue et le pot avec une voyelle brève. Mais en Franche-Comté, on fait une différence beaucoup plus extraordinaire, c'est qu'on dit la peau, mais on dit le pot.
La ah peau, oui, on fait
le
un
pot.
Ouvert,
une,
distin-
oui,
un
une distinction ouvert. De timbre, cette
c'est
fois.
Comme ça qu'il faut dire, non pas dole dans le Jura, mais ouais. dole dans le Jura, D-O-L-E, comme le dole de Bretagne.
Voilà.
Les gens disent dole, mais ce
et
n'est pas vrai.
Trompe, et ils se trompent.
Et ils se trompent.
Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces langues? Elles sont toutes en danger. Mais maintenant, je voudrais faire un résumé de tout ce que j'ai dit finalement, tout ce que j'ai dit pendant ces 20 émissions, c'est qu'elles sont toutes en grand danger, qu'elles soient près de Paris ou loin de Paris.
Même si elles sont enseignées?
Alors, quand elles sont enseignées, ça va mieux, mais il y a des petits problèmes avec les grands-parents qui disent « Attention, qu'est-ce que c'est que cette langue qu'on t'apprend à l'université ou à l'école ?» Il ne sait pas. Ton professeur, il ne sait pas. Parce qu'évidemment, quand on l'enseigne, on enseigne quelque chose d'un petit peu unifié.
Et formel, et ça, un peu,
formel,
oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, il y a ce petit problème. Ce qui se produit, c'est que, évidemment, il y a, comme je l'ai dit quelquefois dans ces langues, il y a des associations qui sont formées, il y a des gens qui ont envie de connaître, il y a tout ce problème de désir, de retrouver ses racines, son identité, etc., et de connaître la langue des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Et ça, c'est quelque chose de favorable. Aujourd'hui, cette langue régionale, elle n'a plus exactement la fonction qu'elle avait autrefois, de communication normale, disons, mais on l'a brandi un peu comme un drapeau pour dire « moi, je suis normand, moi, je suis galaisan ». Voilà.
De même qu'on impose maintenant des symboles aussi,
voilà,
mais enfin, c'est un peu normal aussi,
exactement,
c'est un repère identitaire.
Alors, j'en ai terminé avec les langues de France, du continent, disons, de la métropole, mais il faut encore parler des créoles. Prochaine fois.
Alors, il y a aussi des territoires français dont on ne va pas parler, il faut peut-être le dire aussi, parce qu'on ne peut pas parler non plus de,
on peut parler de tout.
Les langues, sinon alors toutes les langues kanaks, on n'en sortira
on
pas.
On n'en sortira
donc
pas.
Donc on se limitera au créole dans la prochaine émission, dans la dernière émission numéro 20, puisque cette série, on avait décidé au départ avec Henriette Walter et avec notre partenaire, la DGLFLF, de la limiter à 20, ce qui fait déjà beaucoup de langues, beaucoup plus que 20, parce qu'il y en a qui comportent plusieurs langues. Merci Henriette Walter, à bientôt pour une autre émission.
Canal Academy vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, direction l'Outre-mer, pour évoquer avec la linguiste les langues auxquelles on ne pense pas toujours lorsqu'on évoque les langues régionales de France. Je parle bien évidemment des langues créoles, sous le soleil de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Canal Academy vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la chanson www.lehall.com.